Vous écoutez RTL.
RTL. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est une série de concerts très attendus. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc réunis à Bercy pendant 4 jours en partenariat avec RTL. Ces vieilles canailles à la française nous ont donné envie d'en savoir plus sur un autre trio mythique de l'histoire de la musique, Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. alias le Rat Pack. Georges Ayage, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, vous avez été diplomate, prof d'université. Et si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce que l'Amérique vous passionne et notamment Frank Sinatra. Alors, avec Dean Martin et Sammy Davis Jr. et quelques autres, hein, mais on en parlera plus tard, ils formaient un groupe légendaire des années 50 puis des années 60. Ils avaient tellement de succès, ce Rat Pack.
Ils ont eu beaucoup de succès, mais ça a été au départ une vaste plaisanterie, de potage quasiment, qui a fini par devenir un véritable phénomène du show business, avec des implications politiques énormes, puisque c'est l'époque des élections américaines de 1960 et l'élection de Kennedy.
Pourquoi c'est une plaisanterie, au début?
Parce qu'au départ, c'était tous regroupés autour de Sinatra, et ils venaient de tourner un film avec Minnelli, qui s'appelait en français, c'est Comme un torrent, et ils s'étaient bien amusés sur le film. Et d'où l'idée de prolonger la plaisanterie sur d'autres films, dont un qui était Ocean's Eleven, la première version avant que Clooney fasse
et sa bande,
la seconde, ouais. le cast de plusieurs casinos de Las Vegas. Et parallèlement, comme ils étaient à Las Vegas, il y a un casino, le Sands notamment, qui leur a demandé de se produire tous les trois, ou deux sur trois, ou trois sur cinq, etc., tous les soirs, etc. Et c'est parti de là, et à partir de ce moment-là, il y a une sorte de cohésion qui s'est faite, de plaisanterie permanente, parce que ça n'a pas arrêté.
C'est des fêtards, en fait.
Ah, c'était des fêtards, c'était de l'improvisation permanente. Hein, mais une improvisation exercée par des professionnels.
Alors, il y a du cinéma, il y a de la musique, des concerts. Quel type de musique? C'est quoi? C'est du jazz?
Ah, c'est du jazz, c'est du swing, voire des musiques de charme de crooner. Hein. Il y avait un sort de mélange de tout ça.
Et le boss, c'est Frank Sinatra.
Alors le boss, c'est Frank Sinatra, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un premier Rat Pack avant celui-là, qui était 10 ans plus tôt, à la fin des années 40, qui était autour d'Humphrey Bogart, Lorraine Bacall, Tony Curtis, Danny Kaye, etc., dont faisait partie déjà Sinatra. Mais là, c'était un peu différent dans l'optique, puisque c'était la politique qui avait réuni tous ces acteurs, ces comédiens, la lutte contre le McCarthyisme, c'était pas encore le cas des années 40, mais déjà, il y avait une sorte de répression qui frappait tous ceux qui étaient soupçonnés d'être communistes.
Alors, on reparlera tout à l'heure de ce premier Rat Pack dans les années 50, mais là, je voudrais revenir sur ce trio, puisqu'on a en tête les vieilles canailles Johnny, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, et on se demande, tiens, comment le trio avec trois immenses stars que sont Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., comment il fonctionne? Est-ce qu'il y a un leader, Sinatra? Est-ce qu'il y a un souffre-douleur? Comment ça marche entre
les trois? Il y avait un leader incontestable, c'est Sinatra. Ouais. Incontestable, c'était le patron, le chairman of the board, hein, comme il disait, incontestable et incontesté. À partir de là, s'organisaient des plaisanteries entre Dean Martin, Sammy Davis et les autres, bon, qui venaient surtout Bishop, parce que Peter Lawford, lui...
Joey Bishop et Peter Lawford.
Peter Lawford n'était ni marrant ni amusant, et il cherchait même pas à donner l'impression. Il était là parce que c'était le beau-frère de Kennedy.
Mais quand vous dites...
Lawford, c'était le beau-frère de Kennedy.
C'est le beau-frère de Kennedy. Il était marié avec la sœur de Kennedy.
Ouais, on en reparlera tout à l'heure.
Donc c'était important pour Sinatra.
Quand vous dites, Georges Ayache, qu'il faisait des blagues, qu'il faisait la fête, tout ça c'était un peu une vaste plaisanterie, c'est-à-dire que sur scène, il y avait et du jazz et des vannes, c'est ça?
Alors sur scène, c'était très simple. Ils arrivaient et déjà était installé un bar roulant. Où ils étaient censés donc déjà se saouler. Bien souvent, c'est jus de pomme. Hein,
ah, il faisait semblant.
Oui, ah, c'est un décor.
Surtout Dean Martin faisait semblant. Il tenait à ce qu'on croit qu'il était alcoolique, mais c'était souvent du jus de pomme. Et une fois d'ailleurs, il y a une anecdote. George Peppard, à la sortie d'une loge, l'a vu en train de boire un verre de lait, et l'autre l'a regardé de manière furieuse, dit oublie ça tout de suite.
C'était qui George Peppard?
George Peppard, c'est un acteur, un comédien des années 50-60. Mais là, il était furieux qu'on l'ait surpris en train de boire un verre de lait, parce que son image, c'était l'alcool.
Mais d'ailleurs, je crois que sur la scène des vieilles canailles à Bercy, il va y avoir un bar.
Ouais, non, mais l'analogie est évidente.
Il y a le boss, c'est Sinatra, et puis il y avait le comique de service, c'est Sammy Davis.
Le comique, ça pouvait être n'importe qui, Sammy Davis, mais lui, il jouait d'ailleurs le noir de service. Il faut bien reconnaître que bon, Ils étaient antiracistes, tous, autant qu'ils étaient, surtout Sinatra, qui s'est beaucoup impliqué dans la lutte contre le racisme et pour les Noirs. Mais là, ils n'évitaient pas les plaisanteries graveleuses, voire limite à l'égard de Sammy Davis. Hein, du genre, allume la lumière si on ne te verra pas, etc. Donc maintenant, ça passerait
ça
plus.
Ça passerait évidemment correct. plus aujourd'hui. Le Rat Pack, on va continuer de vous raconter l'histoire de ce groupe de fêtards qui papillonnent autour de Sinatra. On en a cité quelques-uns, hein, puisqu'on va remonter dans les années 50. Ça fait rêver. Bogart, Bacall, Catherine Hepburn, David Niven, Spencer Tracy, la crème de Hollywood, et ben on vous l'offre ce soir sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et dans la curiosité, on vous raconte l'histoire du Rat Pack. C'était le surnom du groupe formé autour de Sinatra. Il y avait entre autres Dean Martin, Sammy Davis Jr. Et ce trio nous fait penser à celui que vont former demain soir et jusqu'à lundi Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Vous irez les voir à Bercy, Georges Ayache ?
Absolument. C'est absolument. Vrai ? Ah oui, parce que ça rappelle un peu le Rat Pack et puis à la française. C'est trois artistes qui ont marqué quand même leur époque et dont on se souvient encore maintenant.
Et qui vont peut-être se vanner un petit peu les uns les autres aussi.
Certainement. Ah, très certainement. Ça, ils vont essayer de refaire un peu cette atmosphère, de recréer l'atmosphère.
Quand on les entendait au micro d'Anthony Martin dans Laissez-vous tenter l'autre jour, on sentait qu'ils avaient envie de se moquer et de se moquer
chambrer.
D'eux-mêmes et de se chambrer entre eux. Oui.
Rat Pack, ça veut dire quoi, Georges Ayache, en fait ? Enfin, ça veut dire bande de rats, mais ça vient d'où ce
bande
nom ?
De rats. Alors, il y a plusieurs versions. Hein. Les historiens, là aussi, se contredisent, mais je crois que la version la plus communément admise, c'est ça viendrait de Lorraine Bacall. Qui voit arriver toute cette bande éméchée de Las Vegas à 5h du matin, et elle leur dit « Vous avez l'air d'une sacrée bande de rats. » C'est parti de là, et à partir de là, ils ont structuré le Rat Pack. Ils ont fait une sorte d'organisation avec un président qui était Sinatra, justement, déjà, un porte-parole qui était Bogart, une doyenne qui était la plus jeune, donc par dérision, c'était Lorraine Bacall, et ainsi de suite. Et donc,
quelle était leur mission, finalement ?
Leur mission, c'est de déblatérer sur tous les gens, de s'estimer eux-mêmes, comme disait Bogart, et de déconner, quoi. C'est selon ses propres expressions.
Il y avait même un trésorier ?
Il y avait un trésorier, il y avait un archiviste également, et une devise, ne jamais cafarder un rat.
D'accord. Donc on disait du mal, on se moquait des autres, mais on balançait pas entre nous, c'est ça, à l'extérieur.
Ce qui se passait dans le Rat Pack restait dans le Rat Pack, c'est ça ?
Ah oui, d'ailleurs, tous ceux qui ont essayé de faire partie de la bande se sont fait éjecter, de Claudette Colbert aux deux commères de Hollywood, là, Hopper et Luella Parsons.
Et pourquoi ?
C'était parce qu'ils voulaient rester entre eux. Ils voulaient rester entre eux et s'amuser entre eux, sachant qu'il n'y aurait pas d'autres implications que la plaisanterie. Quoi.
Mais au sein du Rat Pack, il y a les stars qu'on a citées, il y a des gens qui ont eu des Oscars, il y a des...
Absolument. Il y a eu des gens comme Orson Welles qui a fréquenté épisodiquement. Il y a des gens comme Leonard Bernstein, qui était un grand copain des Bogart, et surtout de Lorraine Bacall, d'ailleurs.
mais... Ah bon, il y a eu une petite histoire entre Bernstein
non,
et Lorraine Bacall ?
Non, il n'y a pas une histoire, mais Lorraine Bacall a dit, si j'ai n'était pas prise, quelle folie nous serions pas lancés tous les deux.
Ah, c'est joli. Donc, alors donc, on a un Rat Pack et une bande de copains, de fêtards, mais donc il y a déjà Sinatra, vous disiez, dans la première époque, fin des années 40, début des années 50, le premier patron, c'est Bogart, mais est-ce qu'il y a déjà Dean Martin et Sammy Davis Jr. ou est-ce qu'ils arrivent après ?
Non, ils arrivent après, Dean Martin n'est pas du tout dans cette bande-là, lui commence à connaître le succès après avoir été en solo pendant quelques années dans l'anonymat total. Il forme un duo historique pour le showbiz américain avec Jerry Lewis. Et là, ils cassent la baraque. Je veux dire, ils font un travail extraordinaire. Ils sont les plus connus d'Amérique du jour au lendemain. Une sorte de mélange entre Abbott et Costello et les Brass Brothers.
Du coup, Dean Martin devient digne de rentrer dans ce groupe du Rat Pack, c'est ça ?
Oui, mais Dean Martin est très frustré de son duo avec Jerry Lewis, parce que Jerry Lewis avait une sacrée tendance à tirer la couverture à lui, à être mégalomaniaque. Et donc, la rupture est intervenue en 56 entre les deux. Et ils ne sont plus parlés pendant 30 ans.
Mais justement, dans ce Rat Pack, il y a tellement de stars. Comment les égos fonctionnent ?
Il n'y a pas tellement d'égos, parce que l'autorité morale, comment dire, c'était Bogart. Et tout le monde s'inclinait devant Sinatra le premier, qui avait une admiration sans borne pour Bogart, il voulait lui ressembler. D'ailleurs, le look, etc., qu'il n'a jamais eu, mais il voulait vraiment ressembler à Bogart. Et donc, son autorité n'était pas contestée. Quand Bogart est mort en 57, bon, tout ça s'est un peu dilué, et il a fallu 2-3 ans avant qu'une autre idée germe, mais dans des conditions complètement différentes. Hein. Le premier Rat Pack s'était formé sur des questions politiques sérieuses, et ça avait dégénéré en plaisanterie. Et le second se fonde sur aussi une plaisanterie, c'est l'inverse, et qui va déboucher sur des choses sérieuses comme l'élection de Kennedy.
Alors, on en parlera de l'élection de Kennedy, mais ça devient aussi un trio qui joue sur scène et qui a beaucoup de succès. On a retrouvé un extrait du Rat Pack lors d'un concert donné en juin 1965 à Saint-Louis, Missouri. Écoutez.
They heard the breeze through the trees.
D'entendre cette musique.
C'est feel good.
Oui, c'est ça, exactement.
Feel good music.
Exactement.
On a l'impression d'une époque où on avait moins de soucis qu'aujourd'hui. Alors, vous racontez d'ailleurs l'histoire du Rat Pack dans un livre, une histoire américaine qui a été publiée aux éditions Choiseul. Et dans ce livre, vous racontez qu'ils étaient un peu misogynes quand même. Sinatra, Dean Martin et les autres. Sur scène, il y avait des vannes.
Totalement.
On ferait plus non plus aujourd'hui. Il y avait des vannes un peu racistes et des vannes.
Un peu aussi sexistes, à un peu degré, avec des plaisanteries, une grivoiserie plus que limite. C'était lourd, hein, même.
Mais ça faisait rire le public féminin?
Oui, parce que à l'époque, le féminisme n'avait pas le droit de citer encore.
Oui.
C'était marginal.
C'était la science-fiction, le féminisme.
Voilà, c'était complètement la science-fiction. Celles qui étaient féministes, elles étaient reléguées dans l'anonymat total.
Mais il y avait même un langage codé entre eux.
Oui,
il y avait un langage codé. Ça donnait quoi?
Langage codé, les nanas, c'était les broads, le sexe avait un nom également, etc. Et ainsi de suite.
Bird pour le sexe de la femme,
Bird
c'est
pour
ça?
Le sexe de la bague,
pour les seins.
Le big casino, c'est Dieu, etc. Donc,
et ils employaient ce langage codé sur scène.
Alors, ils employaient le langage codé sur scène, personne ne comprenait pas grand-chose, hein, c'est évident, mais pour eux, c'était une façon de complicité, d'être complice.
Alors, vous l'avez évoqué, Georges Ayas, et c'est l'un des aspects passionnants de ce Rat Pack. C'était pas seulement une bande de fêtards, ils ont eu aussi un rôle politique et des liens étroits avec le clan Kennedy. Histoire incroyable où la mafia fait son apparition. Vous la raconte ce soir sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
You may be my leader, but I'm gonna punch you right in your mouth.
20h-22h.
I gotta catch a train sooner, yeah.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On pourrait former un Rat Pack, vous et moi.
Bah oui, mais on serait sûrement
avec André Facetta,
beaucoup moins talentueux et beaucoup moins drôle que les vrais.
Bah, parce que, je suis pas sûre.
Parce que si vous nous rejoignez là sur RTL à 21h42, les voix que vous venez d'entendre, ce sont celles de Frank Sinatra, de Sammy Davis Jr. ou de Dean Martin. Georges Ayache, vous êtes un passionné d'Amérique et du Rat Pack. Ils arrêtaient pas de se vanner sur scène, c'est ça?
Non, ils essayaient de se déstabiliser. C'était le but du jeu, en fin de compte. Hein. Essayer de donner de la plaisanterie, de faire rire le public et d'entrecouper ça de portions de chansons qu'ils chantaient remarquablement.
Oui, parce que
quel talent.
Accessoirement, ils avaient un peu de talent de chanteur.
Le talent était là.
Les uns et les autres. Alors, donc il y a ces trois-là, évidemment les trois stars, mais il faut pas oublier Joey Bishop et Peter Lawford. Pourquoi Peter Lawford est-il un personnage important du Rat Pack?
Alors, Peter Lawford était à ce moment-là le beau-frère de Kennedy. Et donc Sinatra voyait toute l'importance politique que Lawford pouvait avoir sur le groupe et pour sa propre image, en quelque sorte. Parce que Sinatra a eu de tout temps une ambition politique. Non pas de faire de la politique, mais d'être du côté des politiques, de frayer avec eux, d'être un homme d'influence.
Il était fasciné par le pouvoir ?
Au début des années 40, il a été invité deux fois à prendre le thé à la Maison-Blanche par Roosevelt. Hein. Donc, sa mère était une grande militante du Parti démocrate et il était toujours de ce côté-là. Donc la politique pour lui, c'était important. Alors quand il y a eu Truman, bon, il a lâché parce que ça ne lui disait rien. Mais Kennedy, il a vu tout de suite l'image que ça pouvait être pour l'Amérique, le renouveau, le style.
Et Kennedy, lui, c'était quoi son intérêt de s'afficher avec Frank Sinatra, d'être près d'une star? C'est glamour?
Autant Sinatra était fasciné par la politique, autant Kennedy était fasciné par le monde du spectacle.
Ça tombe bien.
Ça tombait très bien. Il a toujours cette fascination pour les artistes, les vedettes, qu'est-ce qui se passait derrière, qu'est-ce qu'il y avait dans les coulisses. Il était avide de secrets à ce niveau-là.
Et le Rat Pack facilite l'élection de Kennedy?
Alors, on ne peut pas dire qu'il a joué une importance réelle là-dessus, mais au niveau du symbole et de l'image, avoir ces gens-là talentueux et connus du côté de Kennedy, ça ne pouvait pas lui faire du mal.
Mais Peter Lawford, en dehors d'être le beau-frère de Kennedy, d'ailleurs son surnom c'était quoi? C'était Brother in Lawford.
Oui,
c'est
oui,
ça
Brother in Lawford. Oui, oui. Ça, il y avait un jeu de mots.
Là aussi,
on peut dire quoi
Brother in Law. Brother in Law, c'est le beau-frère. Mais là, in Lawford, on joue avec son patronyme.
On retrouve l'humour. Mais sinon, c'est quoi? C'est un comédien? C'est un chanteur?
C'était un comédien. Non, chanté. Il n'a jamais chanté de sa vie.
D'accord.
Mais il valait mieux. Mais c'est un bon comédien. Pas un comédien de tout premier plan, mais il a joué dans pas mal de films au début des années 50 avec de grandes actrices, avec Elizabeth Taylor, etc. Mmh. Non, il a eu la vedette même sur certains films.
Donc, Sinatra fasciné par Kennedy, et Kennedy, à l'inverse, lui aussi fasciné par le showbiz, et donc par Sinatra. Merci. Mais Frank Sinatra, il a aussi quelques amitiés douteuses avec la mafia, notamment Frank Costello. C'était qui, Frank Costello ?
Frank Costello, c'était un des patrons de la mafia new-yorkaise, et c'est un de ceux qui a pris Sinatra sous sa protection assez rapidement. Il y en avait d'autres, il y avait Willie Moretti, il y avait les frères Fischetti à Chicago, et puis il y aura après Giancana, le patron de la mafia à Chicago, qui chapeaute un peu le tout. Mais c'était un peu atavique hein, pour Sinatra, parce que finalement, celui qui l'a le plus protégé, c'est Lucky Luciano. Et Lucky Luciano est issu du même village que la famille Sinatra en Sicile. Et on disait même que Luciano Petit avait joué au ballon avec le père de Sinatra. Donc effectivement, il a vu en Sinatra une sorte de petit prodige local, et il l'a pris sous son aile assez rapidement.
Donc la carrière de Sinatra, elle est imbriquée, liée à la mafia
Au tout début, si vous, la mafia pénétrait tous les aspects du show business à l'époque. Hein. Les boîtes de nuit, les grandes salles, etc. On ne pouvait pas échapper à l'emprise de la mafia. Et tous les artistes, ils sont passés sous les fourches codines de la mafia, hein, y compris Bing Crosby, etc. Sinatra, évidemment, il avait baigné dans cette atmosphère de tout jeune. Hein. Sa mère était très liée à la mafia, son père aussi. Il les a vus défiler alors qu'il était gamin. Par la suite, c'était des pères de substitution pour lui.
Ces amitiés mafieuses de Frank Sinatra, ça va gêner le clan Kennedy ?
Alors, au début, non. Parce que la mafia va financer Kennedy à l'élection. D'ailleurs, c'est la mafia qui fait gagner l'élection de Kennedy, même en la truquant sur Chicago. Hein. Il n'aurait jamais dû la gagner, cette élection. C'était Nixon qui l'avait gagnée en réalité. Donc, la mafia l'a truqué. Sinatra a été une sorte de go-between pendant longtemps entre la mafia et les Kennedy.
Donc ça marche jusqu'à l'élection, ça et marche. Après
il se fait jeter comme une serpillière.
Pourquoi ?
Parce que les Kennedy ne sont reconnaissants envers personne. C'est-à-dire, on est élus, maintenant on fait ce qu'on veut. Ils ont engagé toutes sortes d'actions juridictionnelles contre les mafiosos, alors qu'ils l'avaient aidé à être élu. Donc ils l'ont trahi, il les a trahis. Et quant à Sinatra, il l'a jeté littéralement.
Ça veut dire que le jour de l'intronisation ou de la prestation de serment de Kennedy, il est présent Sinatra,
alors,
ou pas ?
La veille de l'intronisation, quand il y a le grand bal, le grand show, c'est Sinatra qui l'organise. Avec un succès énorme, puisqu'il fait venir tout le monde, Nat King Cole, les Bernstein, etc., Ella Fitzgerald, etc. Mais le lendemain, il se fait éjecter de la cérémonie d'intronisation, et après, on le reçoit parcimonieusement jusqu'à la rupture de 1962. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinairement violent. C'est que Kennedy devait faire une tournée dans l'Ouest, et il devait passer deux nuits chez Sinatra à Palm Springs. Mmh. Et au dernier moment, on lui fait comprendre que c'est pas du tout opportun, il se décommande, et il va dormir chez le concurrent de Sinatra, chez Bing Crosby, qui lui a voté républicain en plus.
La France suprême.
Donc la France suprême, et Sinatra est furieux, il casse tout chez lui, il avait fait tout agrandir, embellir, et furieux. À partir de là, c'est la rupture.
Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., le trio le plus célèbre du Rat Pack, qui fit les beaux jours des casinos de Las Vegas dans les années 60. C'est là-bas qu'ils ont tourné d'ailleurs leur film le plus célèbre, Ocean's Eleven. Et bah oui, George Clooney et sa bande n'ont rien inventé, ou plutôt bien tout réinventé. On vous raconte ce tournage de légende dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais nous aussi, on a notre Rat Pack. C'est le premier concert demain des Vieilles Canailles en partenariat avec RTL à Bercy. Johnny, Monsieur, Eddy et Jacques Dutronc. Ça nous a fait penser à un trio mythique de l'Amérique des années 60. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. et Dean Martin. Ils formaient avec d'autres artistes ce fameux Rat Pack dont on parle avec vous, Georges Ayache. Vous racontez leur histoire dans un livre, Une histoire américaine, publié aux éditions Choiseul. Pourquoi ce titre ? En quoi leur histoire est-elle aussi l'histoire de l'Amérique ?
Elle symbolise l'Amérique pour deux raisons. D'abord parce que le groupe est en résumé le melting pot américain, avec des gens tellement diversifiés de par leurs origines, leurs religions, leurs ethnies, etc.
Parce que, dites-nous, rappelez-nous, il y avait...
Alors, il y avait deux Italiens, ouais. Les Dago, hein, comme on disait là-bas, c'est Dean Martin et Sinatra. Il y avait un Noir, qui était Sammy Davis. Il y avait un British pur sucre, qui était Peter Lawford. Hein. Et puis le dernier, c'était un Juif ashkénaze, triste à mourir, ce qui faisait rire tout le monde. Et c'est pour ça que c'était un des grands comiques américains des années 50.
Qui s'appelle
Peter Bishop.
Ils ont aussi
Joe Bishop.
Ils ont aussi eu, ce Rat Pack, un rôle social, notamment en matière de ségrégation. Pourquoi, Georges Hayes?
Oui, parce que Sinatra était très impliqué dans la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, pour les Noirs, etc. Et d'ailleurs, Sinatra s'est beaucoup impliqué à une époque où ça n'était pas tellement la mode de s'impliquer ou pouvait risquer sa carrière. Hein, même c'était pas politiquement correct de prendre la défense des Noirs à l'époque.
Et il a entraîné ses collègues dans cette
lutte. Ses collègues et lui-même, d'ailleurs, a fait le coup de poing contre certains patrons d'hôtels qui refusaient d'admettre Sammy Davis, etc. Parce que quand ils allaient à Las Vegas, les Noirs se produisaient dans les grands palaces, mais ils pouvaient pas y dormir.
C'est-à-dire que Sammy Davis ne dormait pas au même endroit
Il dormait en périphérie, dans un hôtel qui s'appelait le Moulin Rouge, qui était en périphérie de ville. Et donc Sinatra a bataillé pour que ça change.
Et il a réussi
absolument.
À faire dormir Sammy Davis Jr. Avec eux.
Absolument, et la réglementation a changé à partir de ce moment-là.
Alors on va parler d'un film, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, qui est très important dans l'histoire du Rat Pack, c'est Ocean's Eleven. Pourquoi il est si important ce film?
Ce film, ça partait d'un grand projet. Peter Lawford avait acheté les droits à l'auteur, et dès que Sinatra a vu le scénario, il a tout fait pour racheter les droits, et à ce moment-là, ils ont monté le film parce qu'il a vu tout de suite l'impact que ça pouvait avoir. Il s'est pas trompé d'ailleurs, parce que bon, c'était peut-être pas le film du siècle, mais ça correspondait à ce qu'attendait le public américain à l'époque.
Comment a réagi le producteur quand on lui a présenté le projet?
Alors lui, il était fasciné par le scénario, il dit au lieu de faire le film, faisons le casse.
Tellement il trouvait que l'idée était bonne.
C'était génial.
Et d'ailleurs, le scénario est tellement bon qu'il a aussi donné envie à George Clooney et sa bande de le réadapter quelques décennies plus tard. Le titre français, c'est L'inconnu de Las Vegas.
Un titre.
Mais souvent les traductions,
enfin, la traduction était malheureuse.
Mais en revanche, ça nous dit bien les choses. Ça se passe à Vegas. C'est tourné.
Ça se passe à Vegas. Et d'ailleurs, il profite de l'occasion pour tourner dans la journée et se produire au Sands le soir et faire toute cette joyeuse bande, etc.
Donc ça veut dire que l'emploi du temps était serré.
Il dormait pratiquement jamais. Hein. Un peu plus qu'il le disait, mais moins qu'on pouvait le penser.
Mais il tournait le film à quelle heure du coup?
Il faisait croire qu'il tournait le film à 7h du matin, c'est impossible. Il tournait entre midi et 18h à peu près. Puis là aussi, le metteur en scène, comme disait Angie Dickinson qui jouait dans le film, c'était un vieux routier, il savait qui signait le chèque, donc il n'était pas très regardant sur les horaires.
Alors un jour, Jayash, Kennedy débarque à Vegas pendant le tournage. Qu'est-ce qui se passe? Il repart avec une drôle de valise, je crois.
Alors, il repart avec une drôle de valise. Il se produit, il est présent même lors d'un concert du Rat Pack sur scène. Et effectivement, en coulisses, il a une valise d'$1 million qui l'attend, qui est un cadeau de la direction de l'hôtel, qui est tenue par la mafia. Donc, il ne pouvait pas ignorer l'origine de la valise en question.
Est-ce donc, que le finance... Pardon, Sidonie, ça veut dire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, là c'est donc, on est dans le financement de la campagne de Kennedy, c'est
et ça?
Ça
n'est pas le seul financement qu'il aura, hein, puisque le père Kennedy avait fait de tout, qui lui-même connaissait de très près les grands mafiosos, a fait de tout pour avoir ses financements. Et a fait appel à Sinatra pour être l'intermédiaire bien, bien souvent. C'est pour ça que Sinatra connaissait la mafia, mais alors les Kennedy connaissaient encore mieux.
Est-ce que Ocean Eleven, le film, a été un succès finalement?
Un gros succès, oui. Pas tellement en France à l'époque, mais aux États-Unis, oui. Il a eu un succès, si bien qu'ils ont eu l'idée de récidiver, mais sur des films qui étaient encore plus mal
Pourquoi ficelés, ils ont fait les mauvais choix?
Oui, parce que c'était un western qui se passait au Texas, 4 pour le Texas, après bon, ça a dégénéré. Ils ont fait 3-4 films, après ils ont arrêté parce que c'était la médiocrité quand même était trop trop forte.
Alors Georges Hayash, le Rat Pack cesse d'exister à la fin des années 60, pourquoi ça se termine? Ils ne s'entendent plus?
Même avant, parce que le Rat Pack symbolisait aussi, à part l'Amérique du melting pot, une Amérique flamboyante. La fin des années 50, début des années 60, l'optimisme, le volontarisme, etc. Tout ça se brise le 22 novembre 63 avec l'assassinat de Kennedy. Et le Rat Pack aussi ne peut plus faire comme si rien ne s'était passé. Il ne peut plus jouer l'enthousiasme, la joie, alors que c'est le drame pour les États-Unis. Et c'est le Vietnam qui va arriver, et donc ça change aussi.
Donc ils vont arrêter ou alors les spectacles vont changer?
Les spectacles vont changer, ils espacent d'abord leur production, et puis en plus chacun a assez à son programme. Je veux dire, Dean Martin tourne dans des films, Sammy Davis se produit en solo, et Sinatra fait ses disques, etc. Donc chacun évolue individuellement, il se retrouve exceptionnellement au point de complètement relâcher, mettre fin au groupe à la fin des années 60.
Est-ce qu'ils vont manquer au public, le Rat Pack, Georges Ayache?
Le public ne fait à la limite ce qu'on lui propose.
Hein.
Oui, non, il a dû le regretter, mais il n'y a pas eu de pétition, il n'y a pas eu de sondage qui réclamait le retour.
Hein. Mais ils étaient complets tout le temps? Pendant on va dire 20 ans il y a eu 20 ans d'existence du Rat Pack, mais pendant les années de concert, ils étaient
les années de concert, c'était archi plein. Ça, c'est, et même des places qui se vendaient, je sais pas, à $20, ça se vendait à 100 à la limite, puisque ça s'arrachait.
Et ça les a enrichis, eux, à l'époque?
Ils
gagnaient pas grand chose sur un concert.
Ça provenait pas de ça, c'était surtout les disques, les films qui les enrichissaient. Mais il y a eu un prolongement inattendu du Rat Pack dans les années 80.
Pourquoi?
Et oui, parce que dans les années 80, il y a eu un drame qui est arrivé à Dean Martin. Il a perdu son fils dans un accident d'avion qu'il pilotait lui-même. Il était pilote de chasse et son avion s'est écrasé. Et Dean Martin a été complètement anéanti. Il s'en est jamais remis. Et pour essayer de lui redonner un peu de tonus, Sinatra avec Sammy Davis ont eu l'idée de reconstituer le Rat Pack et de l'amener en tournée. Et donc ça s'appelait le je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Together Again Tour.
Ah, ils n'ont pas voulu que ça s'appelle le Rat Pack.
Non. D'ailleurs, Sinatra détestait l'expression. Il voulait, au départ, dans les années 60, appeler ça le clan. Mais alors, le clan
avec la mafia.
C'est pas tellement le clan par rapport à la mafia, c'est le clan par rapport au cas du clan. Et donc, l'analogie avec le
clan,
bien sûr.
Ils ont abandonné. Après, ils ont eu l'idée d'appeler ça le sommet. Comme c'était l'époque politique des sommets américano-soviétiques, ils ont appelé le sommet. Mais finalement, les journalistes ont appelé ça Rat Pack.
C'était bien plus fun.
Voilà, c'était bien plus fun.
Et c'est ce qui est resté. Merci beaucoup, Georges Ayache. Je rappelle que votre livre, Une histoire américaine, est publié aux éditions Choiseul. Et puis, les concerts de nos vieilles canailles ont lieu à Bercy demain et jusqu'à lundi, 4 soirées exceptionnelles en partenariat avec RTL. La curiosité, c'est déjà fini, c'est dommage, c'était passionnant. Merci encore Georges Ayache, bonsoir à tous, bonsoir Sidonie.
Vous écoutez RTL.